Chapitre 15. Bruno et Floriane continuèrent tout l'hiver leur existence mondaine. Entre-temps, ils travaillaient à un nouvel ouvrage. La jeune femme l'avait cette fois entièrement inspiré. La moralité subtile, élégante, en était le ton habituel. Ça et là, des idées finement perverses se glissaient, à demi voilées sous le charme délicat du style, sous la réserve voulue des mots. Pour leitmotiv, le droit à la vie libre, à la passion, présenté comme un devoir, comme le premier devoir de la vie. Bruno ne se révoltait que faiblement, par à-coups de plus en plus rares. Le sens moral se déviait complètement chez lui. Les raisonnements de Floriane, ses railleries légères et tendres, l'influence de sa volonté sur la sienne, le contact fréquent d'un monde peu scrupuleux en matière de morale, toute l'atmosphère dans laquelle il vivait, enfin, déformait sa conscience, battait en brèche ses croyances, le détachait de ceux qu'il avait aimés et respectés. Ses lettres à sa mère, jusque-là hebdomadaires, commencèrent à s'espacer vers la fin de cet hiver-là, au moment où il laissa passer le temps de Pâques sans remplir ses devoirs religieux. Son frère, son cousin, ses amis de Sarger ne reçurent plus que de rares nouvelles, un mot banal rédigé à la hâte sur une carte. Il était accablé de travail, assurait-il. Mais sur le carnet mondain des grands quotidiens, au compte rendu des premières sensationnelles, à tous les événements parisiens un peu marquants, figurait sans cesse le nom de monsieur et madame Bruno Ferrière. Henri et Hélène les voyaient l'un et l'autre fort rarement. Bruno évitait monsieur de Marge. Il dut cependant se rendre un jour chez lui pour un renseignement que son père, dans un billet reçu le matin, le priait de demander au jeune comte. Ce fut une satisfaction pour lui de ne trouver que madame de Marge. Il exposa l'objet de sa visite, échangea avec la jeune femme quelques paroles de politesse et se leva pour prendre congé. Hélène lui demanda « Vous désertez donc complètement Sarger ? Pas même un petit séjour à Pâques ?»« Non, et fort probablement, nous n'irons pas non plus cet été. Ma femme n'aime pas ce climat. » « Mais vous y passerez au moins quelques jours pour voir vos parents ?»« Je ne sais pas, je ne pense pas. » Il se troubla un peu sous le clair regard d'Hélène. La jeune femme dit sur un ton de reproche ému « Ce sera un grand chagrin pour eux. L'abbé Rivore écrit à Henri que madame votre mère est souffrante et bien changée physiquement. Il me le dit aussi dans sa dernière lettre. Je tâcherai d'y aller. » Il quitta l'hôtel de Marge dans un état d'esprit très pénible. Le passé, qu'il réussissait à maintenir dans l'oubli, venait de se rappeler à lui avec des souvenirs si puissants. Il eut une minute d'effrayant vertige devant l'abîme qui l'en séparait aujourd'hui. Quand il entra dans le cabinet où l'attendait Floriane, son visage apparut à la jeune femme presque défait. Elle demanda avec inquiétude « Es-tu souffrant ?» Il répondit négativement et elle n'insista pas. Connaissant la visite de son mari chez M. de Marge, elle comprenait ce qui se passait dans l'âme de Bruno et, sûre de son emprise sur elle, ne s'en inquiétait plus. Elle n'ignorait pas qu'il ne lisait qu'à moitié les lettres de tous les siens où se glissaient de discrets conseils et qui parlaient de tout ce qu'il avait aimé, gens et choses, de ce pays qui lui avait été cher et dont il semblait se détacher si bien maintenant. Elle savait qu'il n'entrait plus dans les églises, sauf lorsque des obligations mondaines l'y forçaient. Encore bien peu de temps, et les dernières velléités de remords, les derniers troubles de conscience s'évanouiraient. Bruno, enlevé à son Dieu, à sa famille, serait converti au seul culte de Floriane. La petite Élisabeth, restée un peu frêle, n'avait pas vécu. Un soir, après 2 jours de maladie, elle s'était éteinte dans les bras de la nurse pendant que ses parents assistaient, chez une grande dame étrangère, à une fête orientale que les journaux, généralement peu sévères en la matière, qualifièrent d'assez risquée en certains de ses numéros. Ils trouvèrent en rentrant le petit corps sans vie de leur fille couché dans son berceau. Bruno, les larmes aux yeux, le prit dans ses bras et approcha ses lèvres du menu visage glacé. Mais elles ne le touchèrent pas. Une sorte d'honte douloureuse saisissait Bruno. Ce père, au sortir de cette fête, qui venait de salir son regard et son cœur, se sentait, en un dernier sursaut de sa conscience presque atrophiée, indigne d'embrasser les restes mortels de cet ange, maintenant près de Dieu. Une tristesse profonde pesa sur lui pendant quelques jours. Si peu qu'il vit son enfant, il l'avait aimé, et cette mort l'affectait beaucoup plus que Floriane, très peu mère. Puis la vie le reprit vite, et bientôt Lisette ne fut plus qu'un joli souvenir que personne ne rappela autour de lui. Il voyait souvent la famille de sa femme qu'il accablait de prévenances flatteuses. Ismène, toujours aussi avide de mouvements et de plaisirs, avait tout l'hiver dansé, couru de distraction en distraction. Dès les premiers jours du printemps, ce fut une furie d'automobiles et d'avions. Elle prit froid, négligea de se soigner et dut se coucher un jour avec une double pneumonie. Floriane se trouvait à Londres avec Bruno, qui donnait une série de conférences, lorsque leur parvint cette dépêche, Ismène très mal. Quand ils arrivèrent, M. Jarlier leur annonça que la fin était proche. Floriane entra seule dans la chambre de sa sœur. Par la porte entr'ouverte parvenait le bruit rauque de cette respiration de mourante que l'oppression asphyxiait. Des mots vinrent aux oreilles de Bruno.
« J'ai peur, Florie. Oh, mourir. Je ne veux pas. J'ai peur. »
L'accent était si terrifié que Bruno frissonna. « A-t-elle vu un prêtre ? » demanda-t-il à M. Jarlier. Cette question, si simple pour lui jadis, il la faisait aujourd'hui en hésitant et elle lui brûlait les lèvres. M. Jarlier leva les épaules. « Mais non, elle n'en a pas demandé. Vous feriez peut-être bien. Cela la rassurerait, lui rendrait la mort plus facile. Mon cher, je ne vais pas aller lui proposer cela. Ce n'est pas dans mes idées. » La voix étouffée reprit.
« Florie, aide-moi. J'ai peur. Où vais-je aller ? J'ai peur. Oh, mon Dieu !»
Cette fois, Bruno n'y tint plus. Il alla vers la porte, l'ouvrit et fit signe à Floriane. La jeune femme s'avança. Il dit à voix basse. « Il faudrait un prêtre. Elle souffre trop. »«
Ne t'occupe pas de cela, mon ami. C'est un moment à passer et ensuite elle trouvera le calme, pauvre Ismène. »
« Mais Floriane, il faut songer à son âme.
Laisse son âme en repos. Elle n'a pas eu besoin de prêtre pendant sa vie. Il est inutile qu'on lui en emmène un à sa mort. D'ailleurs, elle n'en demande pas.
Elle n'a pas coutume d'en voir. Elle n'ose pas, peut-être.
Elle n'en a même pas l'idée, j'en suis certaine. Laissons-la mourir en paix. »
« En paix ? Tu appelles cela en paix ?»
Ismène gémissait d'angoisse. Les mêmes mots revenaient à ses lèvres entre les étouffements de plus en plus rapprochés.
« J'ai peur, j'ai peur. Je ne veux pas mourir. »
« Floriane, je t'assure qu'il faut lui demander. »
La jeune femme mit la main sur l'épaule de son mari et le poussa doucement vers le vestibule.
« Va-t'en, tiens, mon chéri. Tu n'es pas encore tout à fait guéri de tes vieux scrupules. » « Puisque tu as reconnu pouvoir te passer de prêtre, pourquoi veux-tu en amener un à Ismène ? C'est illogique au suprême degré. »
En revenant vers sa demeure, il se répétait « Elle a raison, puisque j'ai reconnu pouvoir me passer des prêtres. » Il frissonna. Tout le passé, en une vision rapide, se déroula devant lui. Il mesura le chemin parcouru en si peu de temps. Lui, Bruno Ferrière, lui, le fervent entre les fervents. Une épouvante lui broya l'âme. Il rentra chez lui dans un état de vertige affreux et se jeta sur un divan dans son cabinet en prenant son front à deux mains. La mort d'Ismène ravivait le remords en son âme coupable où la foi n'était pas morte. Quelques rayons de soleil attardés répandaient une lumière blonde dans la grande pièce claire où flottait le parfum de Floriane. Tout près de Bruno, sur le divan, était jetée une de ces longues écharpes de gaze aux teintes fines dont la jeune femme aimait à entourer son cou et ses épaules. Tout la rappelait ici. Le moindre meuble, le moindre objet avait été choisi par elle ou pour elle, et Bruno se trouvait tellement habitué à la voir près de lui que, même absente, elle était là encore. Oui, elle était là. Sa vision, son souvenir, reprenait possession de l'âme un instant terrifiée par la pensée de sa chute. Cependant, un malaise profond subsistait. Bruno essaya en vain de travailler. Il entendait toujours la respiration rauque de la jeune mourante et ses mots d'angoisse. Il songeait malgré lui « Et moi ? À ce moment-là, que ferais-je ? Et après ?» Il frissonnait d'effroi et s'essayait à éloigner ses obsessions, à s'absorber dans une lecture. Mais elle revenait toujours. Floriane rentra une heure plus tard. Elle dit d'un ton de calme tristesse « C'est fini !» Bruno demanda, en réprimant son émotion, « A-t-elle beaucoup souffert ?»«
Je ne crois pas. Elle a perdu connaissance peu de temps après ton départ. »
Bruno, qui s'était levé, aida la jeune femme à enlever son manteau. Floriane l'enveloppa d'un rapide coup d'œil et dit avec un ton de reproche,
« Tu as eu des pensées désagréables pendant que je n'étais pas là ?»
Il fit un geste vague.
« C'est la mort de cette pauvre Ismène qui en est la cause, n'est-ce pas ? Tu t'imagines des choses épouvantables, de ces choses qu'enseigne ta religion et que tu n'as pas oubliées encore ? Ah, je te connais bien, va ! Mais je ne veux pas de ces réminiscences. Je veux que tu sois mon Bruno tout à fait. Jure-moi que tu l'es et que tu oublies tout le reste pour moi. »
Elle s'appuyait contre lui dans une attitude de tendre domination. Ses yeux ne priaient pas, ils caressaient et exigeaient. Bruno, d'un accent de ferveur passionnée, prononça ce nouveau reniement.
« Tu es mon amour, tu es tout pour moi !»